Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous savoir nombreux à l'écoute de ce journal dont voici les titres. 24 ans, jour pour jour, après la disparition de Laurent Désiré Kabila, la jeunesse congolaise se souvient encore de cet homme modèle qui a institué des réformes courageuses. Une journée de réflexion a été organisée en sa mémoire ce jeudi 16 janvier par le jeune de la ville de Beni. Pendant ces temps, à Kinshasa, certains Kinois ont visité le bureau de l'ancien président au Palais de Marbre. Environ 3 milliards de dollars en faveur de la RDC, c'est l'enveloppe allouée par le Fonds monétaire international dans le cadre de l'accord de l'appui budgétaire du FMI. La population du Haut-Katanga vit désormais dans la psychose en raison de l'insécurité croissante dans plusieurs villes de cette province. Tout est mis en place pour lutter contre la criminalité urbaine, rassure le commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba, chef de la police du Haut-Katanga. Il est l'invité de ce journal. C'est tout pour les titres. Gisèle Cage à la présentation. Il est gravé dans la mémoire des Congolais. Mzé Laurent Désiré Kabila, héros national, c'est jeudi 24 ans après sa mort. Une journée porte ouverte a été organisée au Palais de Marbre où Laurent Désiré Kabila avait établi son bureau présidentiel. Par groupe d'au moins 50 personnes, le service du protocole le conduit jusqu'au bureau du défunt Laurent Kabila où M. Isaac Kongoy, membre de la fondation Mzé Laurent Désiré Kabila, explique comment Kabila a été tué alors qu'il travaillait. Laurent Désiré Kabila, un modèle pour la jeunesse congolaise, telle est la thématique d'une journée de réflexion qui a réuni les jeunes de la ville de Beni. Cette journée a été organisée ce 16 janvier à l'occasion du 24e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République. Pour ces jeunes, des générations actuelles et futures doivent s'inspirer de ces héros qui avaient fait de l'amour de la patrie et de réformes institutionnelles son cheval de bataille. Maître Fabrice Moulahaï, l'un des orateurs de cette activité, explique.
Commémorer l'assassinat de Mzé Laurent Désiré Kabila, c'est commémorer l'amour de la patrie. Nous devons, en tant que génération, retenir de lui le patriotisme. Il faut aimer le Congo, il faut jamais trahir le Congo. Il a mené une très longue lutte armée avec autant d'alliés que nous connaissons, mais au milieu de toutes ces alliances, il est resté le même tout en privilégiant sa vision qu'il avait pour le Congo, l'amour qu'il avait pour le Congo. Je pense c'est qu'il lui aurait même coûté sa vie, puisque il savait que les alliances, c'était pour un moment, mais qu'après, il fallait quand même continuer à gérer le Congo de manière à ce que le Congolais se retrouve au centre même de l'intérêt, enfin, de l'action publique de l'État. C'est une icône pour nous, c'est un modèle sur ces terrains-là, parce que le bout des temps qu'il a géré, il avait institué des réformes courageuses qui continuent à résonner encore dans les esprits de ceux qui avaient vécu ces moments-là.
Restons au Nord Kivu pour parler sécurité. Dans les territoires de Lubero, une trentaine de civils ont été tués ce mercredi à Muhangi, à une centaine de kilomètres de Lubero centre. La société civile locale parle d'un bilan encore provisoire. Une psychose règne dans cette région où un déplacement massif de la population est signalé depuis la soirée de mercredi. Marc Maroufimbo nous fait donc le point.
Des sources locales précisent que c'est aux environs de 16 heures locales que les rebelles des ADF ont attaqué la localité de Muhangi. Ils ont tué 32 civils à la machette. Parmi eux, le chef du groupement de Mulenga qui a été tué à Mapanga, un village voisin, alors qu'il revenait d'une mission au groupement de Bulenga. Le bilan est encore provisoire, mais on déplore aussi plusieurs blessés et de nombreuses personnes portées disparues à Makoko, Masakoti et Mambangu, ajoutent nos sources. Pris de panique, les habitants des autres localités situées à l'ouest du groupement de Bulenga ont commencé à vider leur milieu pour trouver refuge à Vusamba, Musienene, Musimba, Kiamboho, Kimbulu et dans la ville de Butembo. Pour sa part, le comité local de la protection communautaire en chefferie de Baswara demande aux autorités militaires de prendre des mesures idoines pour traquer ces ADF dans cette région et d'accorder la même attention à la menace qu'ils constituent aux rebelles du MV3. Contacter les porte-parole militaires dans la région confirme cette information sans plus de détails. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Kapi.
Dans la province de l'Ituri, au moins 600 miliciens du groupe armé Zaïre ont officiellement adhéré ce mercredi au processus de paix. À cette occasion, ils ont remis 85 armes et des munitions aux autorités militaires. La cérémonie s'est déroulée à Mabanga, dans la chefferie des Mambisa, dans le territoire de Djougou, en présence du commandant de la 32e région militaire et de la MONUSCO qui facilite le processus. Sadiki Aboubakar était sur place. Voici son reportage.
Ils sont environ 600 combattants regroupés au terrain de foot de Mabanga. Quelques-uns sont armés, mais presque tous portent des effets militaires. Sur place, ils ont remis 85 armes avec des munitions. Jean-Marie Ngadjolé, leur porte-parole, appelle l'armée à renforcer sa présence dans le territoire de Djougou afin de permettre à tous les combattants de la milice d'autodéfense Zaïre de dégarnir leur position et déposer les armes restantes. Il appelle à la même occasion les autres groupes armés à leur emboîter le pas en vue de restaurer la paix en Ituri. Le commandant de la 32e région militaire, le général Urbain Tambouka Bamé, félicite l'engagement des leaders de cette milice pour adhérer au processus de paix.
Le commandant de ces combattants a pris ses responsabilités malgré les attaques de certains membres de sa communauté. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour exhorter différents leaders des communautés de saisir ce moment pour les pardons. La réconciliation, en fait d'amener la province à une paix durable.
Signalons que les équipes de désarmement mobile du PDDRCS et les autres partenaires ont aussitôt démarré le processus d'identification et désarmement de tous ces combattants venus des différentes zones de Djougou. Des retours du Mabanga, Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Nous avons encore besoin de l'appui de la MONUSCO aux côtés de nos forces armées pour établir la paix en Ituri en 2025, a déclaré ce jeudi à Bounia, le gouverneur de province, dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi. Selon le général Johnny Luboyan Kachama, l'amélioration progressive de la situation sécuritaire dans le territoire des Djougou, Mahagi et Irumu est due au soutien logistique, au renseignement et à l'approche militaire apportée par la mission onusienne aux autorités militaires pour la protection des civils. Il reconnaît cependant que beaucoup d'efforts restent à fournir pour la pacification totale de cette province, ce qui nécessite la contribution de toute la population. Le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama est au micro de Martial Kizabiamungu.
La MONUSCO renforce les capacités de nos militaires sur le plan opérationnel. Nous formons les commandos et ça c'est déjà beaucoup. Et donc il en faut encore davantage parce que ici nous sommes en train de mener une guerre atypique. Et donc il faut plus de forces qui soient spécialisées, n'est-ce pas, avec plus de professionnalisme. Et donc je demande à la MONUSCO de continuer à nous aider dans la formation parce que aujourd'hui il y a toujours ces mauvaises personnes-là qui n'ont pas arrêté et qui continue. Vous connaissez l'histoire de Thomas Lubanga, vous connaissez l'histoire de Kawa, vous connaissez l'histoire maintenant avec leur association de criminels, des vidéos que vous suivez, les Unierto et toute leur bande là. Des Tungul aussi qui sont décidés à attaquer la province de l'Ituri. Il y a des choses aussi que les Ituriens doivent faire. Surtout aussi à ces politiciens qui continuent à manipuler. Cela appartient aussi aux députés. Ces députés-là qui doivent parler à leurs élus, qu'ils parlent pour qu'il y ait la réconciliation et le pardon. À quoi ils servent les députés?
Ce journal se poursuit sur Radio Kapi. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international approuve un accord de 38 mois d'un montant d'environ 3 milliards de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué parvenu ce matin à Radio Kapi, le FMI précise que 1,729 milliards de dollars seront débloqués au titre de la facilité élargie de crédit et 1,38 milliards de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité en faveur de la RDC. Cette approbation du conseil d'administration du FMI est un aboutissement de l'accord négocié par les experts du ministère des Finances et budget sous l'égide du ministre des Finances Doudou Fouama en décembre dernier. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Dans un communiqué signé hier mercredi, le directeur général adjoint et président du conseil d'administration du Fonds monétaire international affirme que l'économie de la RDC est restée résiliente avec une croissance économique durable, une baisse de l'inflation et des déficits budgétaires malgré les défis importants auxquels elle est confrontée, notamment les conflits armés dans l'est du pays et une crise de santé publique liée à l'épidémie de Mpox. Monsieur Okamura souligne que le 1729 millions de dollars accordés à la RDC dans le cadre du nouvel accord à titre de la FEC permettra aux pays bénéficiaires à stimuler la croissance et créer un espace budgétaire pour les investissements prioritaires et les dépenses sociales. En ce qui concerne les 1038 millions de dollars octroyés dans le cadre du programme soutenu par la FRD, M. Okamura, chef du FMI, précise qu'avec cet argent, la RDC s'investira dans la protection de ses vastes forêts tropicales, le renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles induites par les changements climatiques, ainsi que dans une meilleure prise en compte des considérations climatiques dans la gestion des investissements publics.
Les sociétés chinoises et coopératives minières œuvrant au Sud Kivu s'engagent à fournir des fonds pour rendre praticable la route nationale numéro 2 sur l'axe Mugogo-Walungu-Mwenga. Ces compromis résultent d'une réunion d'échange entre les acteurs miniers tenue hier à Bukavu par le ministre provincial des mines avec des parties prenantes du secteur des mines et des routes, Jean Kassami.
Les débats étaient houleux avant que les acteurs réunis dans la salle Bodega tombent d'accord tard dans la soirée. Les coopératives minières, parlant aussi au nom des sociétés minières, ont accepté de collecter un fonds au profit de la réhabilitation de la route nationale numéro 2, un engagement qui plaît à la grande majorité des parties prenantes. La société civile demanderesse de la rencontre dit attendre voir les engins. Sami Jean Takimbula, vice-président du bureau.
Satisfait par rapport à cette participation à la réunion qu'a organisé le ministère des Mines sur la question de la réhabilitation de la route nationale numéro 2 de Bugogo jusqu'à Kamituga. Les échanges étaient vraiment pertinents pour qu'il y ait une solution idoine, que les sociétés qui exploitent les minerais dans les territoires de Mwenga et de Walungu puissent avoir un œil en réhabilitant ces tronçons routiers à l'importance nationale.
Ladislas Muganza, notable du territoire de Mwenga.
Dès que les travaux vont commencer, il y aura des crispations et le trafic va commencer très bien.
Une séance de signature d'un protocole d'accord est convoquée ce mercredi entre le ministère provincial des mines, les sociétés civiles, les coopératives et les sociétés minières. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Non loin de Bukavu, au Nord Kivu, la ville de Goma va se doter d'au moins 53 kilomètres supplémentaires des routes asphaltées. Les travaux ont été officiellement lancés ce mercredi par le gouverneur militaire intérimaire, financé par le gouvernement provincial et quelques sociétés partenaires. Ce projet sera exécuté en deux phases. Selon le gouverneur, ces travaux font partie d'un vaste chantier comprenant l'asphaltage et le pavage des routes ainsi que d'autres projets de développement à travers la province. Il précise que l'exécution de ce programme devrait s'étendre sur un peu plus de 10 ans. Le général-major Peter Chirimwami, dans cet extrait choisi par Bernard Denyangui.
Le premier lot va concerner l'asphaltage d'environ 27,62 km qui concerne l'avenue polyclinique, l'avenue de Kanyambongo où nous sommes, l'avenue constituant les deuxièmes voies d'accès au niveau du palais de justice, les boucles avenue Kasavubu, Kalonji, Kanyamwanga, les boucles Kabasha, Andosho, l'avenue Kibati, l'avenue Katoi, l'avenue Jomètre, l'avenue Commandant Belge, les boucles Morgue de l'hôpital provincial, RTNC, OVG, Stadafia, l'axe TMK, Institut Faraja, Kanisalamungu. Le deuxième lot, c'est l'avenue de la Plaine, axe Majengo, école primaire, Biaï, l'avenue Nyabushongo, l'axe Chongo, Turunga, l'avenue Rwenzori et l'avenue Chengerero, qui vont constituer les 53 kilomètres. Donc, si nous arrivons à la fin de ce projet, nous allons totalement transformer la ville.
Parlons santé à présent. 65 décès de Mpox enregistrés en 2024 au Sud Kivu. 770 cas à ces jours. La province reste l'épicentre de la variole de singes en RDC. La zone de santé de Miti, Muhesa, vient en tête, suivie de celle de Nyatende. Le ministère provincial de la santé dit poursuivre avec les efforts dans la prise en charge des malades pour revoir la tendance à la baisse en 2025. Docteur Claude Baïziré, chargé de communication à la division provinciale de la santé Sud Kivu, nous en dit plus au micro de Rachel Kissimbangu.
Au sujet de l'année 2024, nous avons clôturé avec plus de 19 000 cas, surtout 19 786 cas. On a perdu au moins 65 personnes. Par rapport toujours à 2024, il y a eu quand même des guéris, ce qui est quand même encourageant, plus de 18 500 guéris. Il y a quand même de l'espoir, parce que quand vous voyez les zones de santé affectées, c'est autour de 33 sur 34 zones de santé qui comptent la province, mais presque dans toutes les zones de santé, la courbe a changé d'allure. Il y a quand même une diminution du nombre de malades, mais dans l'ensemble, avec le cas de malades où nous faisons des examens de laboratoire, en tout cas, l'impox est confirmé. Et on a fini avec 75% de positivité par rapport au nombre de cas où on a fait l'examen de laboratoire. Il y a quand même diminution et nous espérons que cette diminution va continuer et on peut même gérer la situation pour l'année 2025.
Actualité internationale.
L'Union européenne a annoncé jeudi l'octroi d'une aide humanitaire de 120 millions d'euros en faveur de la bande de Gaza après l'annonce mercredi d'un accord pour une trêve dans ces territoires palestiniens. Cette aide est destinée à faire face à la situation catastrophique à Gaza, a précisé une porte-parole de la Commission européenne lors du point de presse quotidien à Bruxelles.
L'invité.
La criminalité urbaine prend de plus en plus de l'ampleur dans les grandes villes de la province du Haut-Katanga. De nombreux corps sans vie sont ramassés ici et là et la population vit la psychose. La société civile s'interroge sur les mesures de sécurité prises par les autorités pour y faire face. La police, pour sa part, sollicite la collaboration de la population et rassure que tout est mis en œuvre pour mettre hors d'état de nuire les malfrats. Pour en parler, le commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga et notre invité, le commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba, chef de la police dans le Haut-Katanga, s'entretient donc avec Jean Ngandou.
Mon général Dieudonné Odimba, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Qu'est-ce qui peut bien justifier le regain de la criminalité à Lubumbashi ces derniers jours?
Vous voyez, pendant les périodes de festivités, chacun cherche comment nourrir sa famille, avoir quelque chose pour les festivités. Et aussi, tous les creusers, ils ont abandonné les sites miniers pour venir en ville parce que la plupart des puits sont remplis d'eau. Et ça, c'est un problème. Pour la ville, nous faisons tout pour arrêter les criminels. Nous les arrêtons. Nous les présentons à l'autorité, à la justice de faire sa part. Nous ciblons des quartiers pour boucler. Nous bouclons, nous arrêtons les gens avec de preuves palpables. Et nous transmettons à qui des droits? Quitte à la justice de faire son travail, à la population de collaborer avec la police. Le policier n'est pas un magicien. Le policier travaille. Le policier fait la patrouille, les tournées, diurne, la patrouille diurne comme nocturne chaque jour. Et nous procédons aux arrestations chaque jour. Nous présentons ces criminels auprès des autorités. Mais chacun a son travail. Nous nous limitons pour les arrestations, nous établissons les procès-verbaux, nous envoyons à qui des droits. Mais qui est aussi à la justice de faire son travail? Les policiers arrêtent, les policiers n'est pas un juge. C'est ça le problème. Je demande à la population d'être calme. La police travaille jour et nuit.
En l'espace d'une semaine, c'est plus d'une dizaine de corps qui ont été ramassés, tant à Likasi qu'à Lubumbashi. Ça commence à créer la psychose dans les chefs de la population.
Ce n'est pas seulement le problème d'insécurité. Nous sommes dans une période de pluie. Il y a des gens qui sont tombés dans des puits. D'ailleurs, j'étais en réunion avec tous les chefs de quartier et les maires de la ville. Nous avons parlé sur ces problèmes-là. Il y a d'autres qui ont été électrocutés. Vous voyez, là où les câbles sont nés, le monsieur
passe, il y a de l'eau qui coule, alors l'homme est électrocuté, on ramasse le corps, on dit qu'il a été tué par l'insécurité. Non.
Avec les traces de violences sur les corps?
Avec les traces de violences, parfois, mais ce n'est pas tous les corps.
Que dites-vous de ceux qui pensent que par moment, il y a certains patrouilleurs qui se mécomportent aussi, qui seraient parmi ceux qui insécurisent la ville?
La dernière parade du mois de décembre, avant la fête, j'avais présenté au moins 6 policiers qui se comportent mal lors de la patrouille. Ils ont été arrêtés, ils sont mis à la disposition de l'auditorat.
Et aux patrouilleurs, qu'est-ce que vous dites?
J'ai dit aux patrouilleurs, on dit la présence d'un policier sur la voie publique est le commencement de la sagesse. Donc, nous les envoyons pour sécuriser la population et non pas pour insécuriser la population et tracasser la population.
Que diriez-vous donc à ceux qui vivent avec les criminels et qui ne veulent pas peut-être collaborer avec la police simplement parce qu'ils ont peur peut-être que ça pourra se retourner contre eux?
Nous demandons à la population de nous aider, de pointer du doigt là où les criminels se cachent. Parce que les criminels ne vivent pas à l'air, au ciel. Les criminels vivent avec la population à la cité. Que les chefs des quartiers dénoncent, que la population dénonce là où les criminels se cachent. Comme ça, la police saura faire son travail.
Quelle garantie donnez-vous à ceux-là qui viendront dénoncer, qui ne seront pas exposés?
Nous allons les sécuriser et ils ne seront pas exposés à des problèmes.
À quoi servent les différentes barrières qu'on trouve sur la route la nuit? Et ça devient un endroit où se font les tracasseries et les extorsions.
Les barrières sont tenues par les FARDC pour les problèmes sécuritaires que vous connaissez dans les Haut-Katanga. Le commandant 22e région militaire a mis pour contrôler un peu les véhicules qui entrent la nuit, qui sortent pour filtrer ce qui entre parce que nous craignons la surprise.
En général, vous avez été pour la première fois à Mitoaba. Alors, quelle est la situation sécuritaire qui prévaut dans ce territoire?
Mitoaba, en soi, n'a pas d'insécurité. L'insécurité vient d'ailleurs, de Malembankulu, de Manom. Il y a le deux parcs, les Bakata Katanga. Ils se cachent dans les deux parcs. Ils viennent seulement pour chercher à manger, pour tracasser la population. Ils sont devenus des coupeurs de route. Les Maï Maï sont basés dans les territoires de Malembankulu et Manom. À Mitoaba, il n'y a pas l'insécurité. J'ai été moi-même à Mitoaba. Je suis le premier général de la police à fouler les pieds dans Mitoaba. Je suis allé à Pointe 3 fois. Je ne dors pas pour les problèmes de sécurité. J'ai passé les festivités à Mitoaba.
Mon général, je donne votre image. Merci.
Quitte à moi de vous remercier, messieurs les journalistes.
Le commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba, chef de la police dans le Haut-Katanga, s'entretenait avec Jean Gandou. Ce journal prend fin sur Radio Kapi. Il a été mis en onde par Jean-Claude Siala, coordonné par Blaise Chindani, sous la supervision de Martin Sibujangwe, Gisèle Cage à la présentation. Je vous retrouve à 16h, juste heure de Kinshasa, pour le bulletin d'information.